Tu vois qui c'est ? Présenté par Damien Douani sur Beta Série La Radio.
Cette musique vous dit certainement quelque chose et vous n'arrivez pas forcément à y mettre un nom dessus. Et pourtant, elle est tellement familière à votre oreille. Comme les voix de mes invités aujourd'hui, Greg Germain et Géraldine Asselin, deux grands comédiens de doublage. C'est Will Smith et Halle Berry que j'ai assis en face de moi et que vous allez reconnaître vous aussi dans quelques secondes. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup la télévision et s'il y avait une chose à laquelle j'étais méticuleusement attentif, c'était les voix de mes héros préférés en français. Parce que retrouver de série en série une voix qui vous est familière, c'est développer de l'intimité avec les personnages, c'est se laisser embarquer dans leur aventure parce qu'ils parlent notre langue, alors même que ce n'est pas le cas dans la réalité. Et ce miracle est dû à des personnes dont le nom n'était jamais crédité au générique. Il l'est maintenant, après de nombreuses revendications, tout à la fin du film ou de la série. Ces comédiens de doublage sont d'excellents acteurs et leur travail est d'autant plus remarquable qu'ils ne se remarquent pas. Certains films ou séries doivent une partie de leur succès en France à leur adaptation investie et inspirée, parfois même meilleure que la VO. Avec moi donc aujourd'hui en studio, bonjour Géraldine Asselin.
Bonjour.
Alors Géraldine, vous êtes comédienne, vous arrivez à l'âge de 16 ans en métropole.
Ouais.
Et vous vous passionnez pour le théâtre. Vous enchaînez les rôles en jouant notamment des pièces de théâtre comme Il ne faut jurer de rien d'Alfred de Musset, L'entourloupe aux côtés de Jean Lefebvre, Mazette.
Oui.
Mon Dieu. On m'a même dit que vous aviez été à une époque danseuse au Crazy Horse.
Tout à fait.
C'est vrai,
tout
ça
à fait. Oui, tout à fait. J'ai un parcours assez particulier. J'ai fait plein de choses. Alors d'abord, je suis arrivée ici en métropole pour faire de l'escrime de haut niveau.
Ah, rien à voir.
Rien à voir. J'étais destinée plutôt à une carrière sportive. Et puis, j'étais en équipe de France Espoir. Je ne suis pas rentrée en équipe de France A, comme on dit. Et donc, j'ai bifurqué. J'ai fini mes études. Et puis, le théâtre est venu à moi.
Naturellement.
Voilà. Non, pas naturellement. J'ai eu envie d'en faire un petit peu comme ça en amateur. Et puis, ça m'a plu. Et j'ai décidé de tout laisser tomber et de partir dans cette voie-là.
Alors justement, voilà. C'est après un stage de doublage que vous vous lancez dans le grand bain, vous enchaînez les pubs, les documentaires, les séries télé, les films.
Ouais.
Et c'est grâce à une trilogie très particulière qui commence en 2000 que vous devenez la voix régulière de...
Halle Berry.
Et jusqu'à maintenant, récemment, en 2018, avec un film qui s'appelait Kings avec Daniel Craig, on vous écoute dans X-Men 2.
Voici la carte topographique de la zone du barrage. Le déversoir est là. Vous voyez ces variations de densité du terrain ? Ce sont des traces de roues.
Ça, c'est l'entrée ?
Oui. Et sur ce graphique, on a la profondeur du manteau de glace. On voit qu'il y a eu des variations dans le niveau de l'eau.
Sir Norm Striker va inonder le déversoir.
Tu peux te téléporter à l'intérieur ?
Alors, vous enchaînez ensuite Michel Rodriguez, dont vous devenez aussi la voix officielle, au cinéma et à la télévision avec... notamment Lost.
Exactement.
Et on va entendre un petit extrait justement dans Avatar.
Va voir, ça fait longtemps.
Bien, salut.
Personnellement, je comprends pas que ces traîtres d'écolo aient droit à un steak.
Ils ont du steak ? J'y crois pas. Qu'est-ce que tu me racontes ?
Ouais, ça tu connais. Allonge-toi.
Trudy !
Allez, allonge-toi.
Et donc vous êtes désormais abonné au rôle de super-héros puisque vous êtes aussi la voix de Danny Gurria qui joue le rôle de Okoye dans Black Panther et les Avengers. Mais dites-moi juste une petite question, ces femmes déterminées comme ça vous ressemble ?
Oui. En général, quand on est choisi sur des rôles, même en doublage, ça c'est aussi par rapport à notre personnalité, par rapport à ce qu'on dégage dans la vie. Donc on me prend beaucoup sur des rôles de femmes fortes, de femmes soldats dans les jeux vidéo, voilà. Après, j'ai fait aussi beaucoup de rôles en douceur. Je ne suis pas abonnée qu'à ces rôles-là, heureusement, mais bon. J'aime faire les méchantes, j'aime faire les femmes fortes, voilà.
Mais c'est vrai qu'on va le voir dans quelques instants, justement, on va parler de comment on choisit une voix. Mais avant tout, je vais présenter le deuxième invité qui est là à côté de vous, c'est Greg Germain. Bonjour Greg Germain.
Bonjour.
Alors Greg, vous êtes comédien, metteur en scène, vous êtes directeur artistique de théâtre français, vous avez été président d'Avignon Festival et Compagnie qui s'occupe du off du Festival d'Avignon jusqu'en 2016. Vous n'êtes un, si je me trompe. Vous débutez au théâtre en 1967 au Festival Avignon dans le Métro Fantôme. Vous jouez au théâtre, vous jouez au cinéma aussi. De nombreux metteurs en scène très connus vous mettent en scène. Je pense à Claude Chabrol, à Jacques Deray, à Olivier Barrault aussi de KDO. On va voir. Et même, alors, vous avez joué dans Goodbye Emmanuel, dit Emmanuel III en 77.
Oui.
C'est vrai.
Effectivement, mais c'était un rôle très très court. Beaucoup plus court d'ailleurs que celui que j'ai fait dans un James Bond dont je ne me souviens absolument plus du nom d'ailleurs.
C'est vrai.
Oui.
Alors Régis, il y a notamment un fan de James Bond. Régis, alors là, il est en train de dire, oh mon Dieu, mais quel James Bond? Il est en train de chercher sur Internet.
Il va pas le trouver. Il y avait Georges Belair, il y avait tous ces gars qui ont fait Médecin de nuit en fait, hein, oui, puisqu'on avait été un petit peu pris pour ça. Mais le tournage a duré 6 mois et je crois que toutes les scènes en France ont été coupées.
Alors c'est ça, je me rappelle pas vous avoir vu. Je me rappelle le Georges Belair vaguement qui passe dans James Bond.
Il passe comme ça.
Voilà. Et vous, mais je vous ai pas trouvé. Pourtant, j'ai passé en revue votre film.
Je fais un des techniciens. Je suis là. Il y avait même une belle scène et puis elle a été coupée.
Alors justement, vous vous révélez en 1978 dans un rôle de composition qui va vous tenir quasiment 10 ans. On va en écouter le générique. Bonjour, docteur Alpha.
Bonjour. Alors, ça serait même plutôt bonsoir, puisque ça se passait
ça
surtout
se passait
la nuit.
Effectivement. Et vous vous rendez pas compte, moi, comme on dit, j'ai les poils, là. Franchement, j'étais enfant quand je regardais cette série. Enfin, je l'ai pas tout de suite vu au démarrage, mais après, quand elle est repassée. Et j'ai le docteur Alpha en face de moi. Et en plus, pour tout vous dire, j'ai pris le générique de l'épisode qui s'appelle Alpha, d'ailleurs. Alors, au volant de votre Renault 5, vous étiez en train d'arpenter les rues de Paris de nuit pour sauver la veuve et l'orphelin dans une série écrite par Bernard Griden. C'est qui d'ailleurs Bernard Griden?
Bernard Griden, c'est Bernard Kouchner. Et en fait, nous nous sommes rencontrés d'ailleurs à cette occasion.
Voilà, ça c'est une belle 8 ans quand même de série.
Oui, parce que c'était la première série française qui durait aussi longtemps.
Sur Antenne 2 à l'époque.
Sur Antenne 2, oui. C'était, en ce qui concerne l'acteur noir que je suis, la première fois qu'en France il y avait un rôle d'un acteur qui n'était noir, qui n'était ni voleur, ni assassin, ni sauvage, c'était un médecin, c'est-à-dire quelqu'un destiné à soigner. Mmh. Et j'ai d'ailleurs insisté beaucoup pour que dans un épisode, on sache que ça n'était pas si évident que ça, puisque j'ai demandé, et Bernard a totalement adhéré à ça, qu'à un moment il y a des difficultés lorsqu'il sonne, alors qu'on a demandé à un médecin, il y a des difficultés parce que...
On refuse l'entrée, on est méfiant.
Médecin, non, mais j'ai demandé à un médecin, si, c'est moi. Et bon, et voilà. Et puis, 2-3 petites choses comme ça qui étaient destinées
à marquer le fait que c'est pas forcément facile.
À faire savoir des choses, oui. Ouais. Ça n'a pas servi à grand chose, remarquez, puisque quelques années plus tard, le Front National faisait près de 35% un peu partout en France.
Certes, mais on y reviendra justement sur ces engagements, justement, par rapport à vos engagements que vous avez eus, justement, autour du métissage des cultures. Vous pratiquez le doublage assez tôt, 1978, La Cage aux Folles.
Oui, je double une... Mais pourquoi je double ça?
Vous doublez Jacob. Jacob, c'est le serviteur.
Pourquoi je double?
Alors, parce que je crois, j'ai cherché, parce que c'est un film français, mais c'est un film franco-italien. Donc, Jacob devait être italien, ou ça devait être une coproduction européenne, donc un acteur qui sont allés chercher, je ne sais plus où, qui parlait pas français. Et j'avais reconnu votre voix, je me suis dit, mais pourtant, alors, il est noir, donc je me suis dit, mais pourtant, c'est la voix.
Ah oui, mais je suis arrivé à le faire quand même.
La voix n'a pas de couleur.
On est d'accord, on y reviendra justement. La voix n'a absolument pas de couleur.
Un petit peu quand même parfois, mais.
Mais justement, on y reviendra sur ces questions-là, mais un peu plus tard. Vous allez jouer, vous doublez ensuite les Gremlins, Police Academy, c'est quand même vous dans Police Academy, c'est extraordinaire. Les Blues Brothers, Pulp Fiction. Vous jouez même Quincy Jones dans Fantasia 2000. Ça, si c'est pas la classe.
Bon.
Ouais. si, croyez-moi. Et il y a un doublage de télé qui va fonctionner particulièrement bien aussi. Vous allez doubler Isaac dans La Croisière s'amuse.
Ah oui.
En alternance avec Philippe Ogou, le regretté Philippe Ogou.
Avec Philippe Ogouze.
Ogouze, pardon. Oui, merci. Oui, vous avez raison. Philippe Ogouze. Et oui, vous allez. C'est vous, Isaac, une Margarita, c'est vous?
Oui, en fait. Et c'est ce rôle d'Isaac qui a permis d'arriver à celui que vous alliez.
Que j'allais nommer. Parce que cette série qu'on va entendre qui est l'icône des années 90 et qui est en train d'être diffusée aujourd'hui sur Netflix, on l'entend tout de suite.
C'était probablement quelque part dans la région que tu viens de viser. Bon, écoute, ça suffit, il faut qu'on cause tous les deux. Je commence à en avoir un peu marre de toi, tu comprends? T'arrêtes pas d'embêter ma cousine Ashley, mais je vais être franc avec toi, je vais finir par me fâcher.
Ouh, j'en tremble dans mes petites chaussettes.
Elle est marrante. Bon, écoute... Tu sais quoi? Et c'est vraiment contre tout ce en quoi je crois, mais tu ne me laisses pas le choix.
C'est Will Smith. Vous êtes là, votre Will Smith.
Oui, dans Le Prince de Bel-Air.
Pas que 18 films, quand même. J'ai compté.
Oui, mais surtout dans Le Prince de Bel-Air. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Will Smith n'a pas du tout cette voix-là.
Oui, alors j'ai vérifié, effectivement. Ouais.
En fait, c'est assez amusant, parce que justement, c'est parce que je doublais Isaac pour une société de production qui s'appelait La Sophie.
Mmh. Grande société de doublage.
Grande société de doublage, qui était venue me chercher d'ailleurs pour faire un truc, je ne me souviens plus, au début des années 80, après Médecin de nuit. Et donc nous sommes à la fin des années 80, en 89... on me dit, tiens, il y a ce jeune acteur qui... Alors je l'écoute et je dis, mais bon, finalement, tu sais, il fait l'ado, mais il n'est pas si jeune que ça. Et ce qu'il faudrait, c'est lui donner une voix d'ado, une voix très perçante, comme ça. Et puis de temps en temps, qu'il se brise, il devient d'un seul coup, il n'est plus ado. Bon, voilà, salut maman, ça va? Bon. Et c'est là que je trouve ça formidable, c'est que le directeur de cette société m'a dit, ouais, fais-le comme ça.
Alors justement, c'est une question pour vous deux, par rapport à des voix. Lorsqu'on prend une voix, est-ce qu'on est amené à devoir respecter la voix? Vous venez de dire que pas forcément. Qu'est-ce qui décide finalement? Est-ce qu'on respecte la voix? Est-ce qu'on la respecte pas? Ou est-ce qu'on fait une voix qui est carrément différente, mais qui colle bien finalement?
Je pense que maintenant, ils essaient de plus en plus de faire ce qu'on appelle les match voice, c'est-à-dire de prendre des comédiens qui ont vraiment des voix hyper raccord avec la voix originale.
Qui ont la même tessiture.
Qui ont la même tessiture, voilà. Mais par moment, lorsqu'on fait du doublage, il faut évidemment une voix qui raccorde, mais il faut surtout une énergie qui raccorde. Mmh. Il faut que ça soit exactement les mêmes sensations, les mêmes. Donc, en fait, je pense qu'il faut
le même rythme,
voilà, le même rythme, la même énergie. C'est plus ça qui est important finalement que la voix, parce qu'une voix parfois, alors évidemment, on va pas partir à une voix qui est opposée, mais l'énergie est plus intéressante et plus importante que la voix à proprement parler, je pense.
Vous confirmez, Greg?
Oui, oui, même si on a fini les doublages de western, ouais, Joe, depuis que la guerre de Sécession, c'est sûr. Bon, ce genre de choses, on entend.
Oui, on est moins dans la caricature aujourd'hui.
Oui, oui. Mais Géraldine a raison de ce côté-là, même si souvent, enfin, quelquefois, les gens qui ne veulent prendre aucun risque décident que non, la voix n'est pas exactement comme ça, comme si on pouvait avoir la même voix que quelqu'un, chacun a son empreinte vocale, même si les voix peuvent se ressembler, effectivement, ma voix ressemble beaucoup à celle de Will Smith.
Mais justement, des fois, est-ce qu'on ne tend pas vers une sorte de platitude, à vouloir à tout prix coller? Des fois, les voix ne deviennent plus, et certains doublages, les voix sont plus vraiment, enfin, elles sont un peu passe-partout, alors que vos voix, elles sont caractéristiques. Ah, on reconnaît Alibéry, on reconnaît Will Smith.
Ah mais moi, pas du tout, alors moi, je prends ma voix, qui est celle que j'en... Parce que, même encore aujourd'hui, de temps en temps, j'ai voulu garder le fait que, ouais, sa voix montait un petit peu comme ça, quand il était un petit peu fâché. Ce qui est aussi le cas chez Will Smith, que j'ai rencontré, et avec lequel j'ai longtemps parlé.
Alors justement, tiens, est-ce qu'on rencontre les gens que l'on double? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a une surprise de leur part ou de votre part de les rencontrer?
Oh, moi, j'aurais adoré. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. J'adorerais rencontrer Alibéry ou Michel Rodriguez. Mais Alibéry, surtout, c'est... Malheureusement, pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. J'espère qu'un jour, ça sera le cas. Mais bon, pour l'instant, non.
Greg, vous prenez l'apéro régulièrement avec Smith?
Non, pas du tout. Non, mais je l'ai rencontré 3 fois. Alors, la première fois, d'ailleurs, il m'a dit que je ressemblais à son père. Moi. C'est pourtant moi qui le double. Et puis une deuxième fois à Rome, parce que je voyage beaucoup et qu'il était à Rome et je l'ai su et donc on s'est revus. Parce que la première fois c'était à Paris, après À la poursuite du bonheur, un film qu'il avait fait. Et puis ensuite, je l'ai rencontré en Californie dans sa société de production. Je savais qu'il passait ce jour-là. Enfin bon, bref, voilà.
Et ça s'est bien passé, il a été surpris. Est-ce que les acteurs, justement, notamment américains ou autres, sont surpris de se dire, bah oui, j'ai des voix un peu partout, vous êtes ma voix, comme il aurait pu rencontrer...
Comme il aurait pu rencontrer le Polonais qui fait sa voix, etc. etc. Non, parce que les acteurs américains sont habitués à ce qu'ils soient internationalement connus, donc ils n'ont pas ces problèmes-là. En revanche, moi qui double Will Smith, c'était très bizarre la première fois que j'ai rencontré, parce que bien sûr, il ne me connaît pas.
Ouais.
Et moi, je le connais,
bien sûr.
Si je puis dire, bien, depuis 30 ans. C'est un ami de 30 ans, hein, puisque... pas Médecin de nuit.
Le
Prince de Bel-Air, c'était en 89. Donc, ça fait 30 ans. Et donc, là, à cette époque-là, ça faisait 25 ans. Oui, ça faisait 25 ans. On se connaît depuis 25 ans. Et le type, il passe comme ça, il va, il vient sans te dire « Hey, salut, Greg, ça va ?» Bon. Donc, mais c'est très étrange. C'est vraiment très étrange.
Alors, on parlait d'énergie tout à l'heure. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, quand on est dans quand on fait du doublage, quand vous êtes comédien de doublage, on a une barre, en fait. Hein. Ça existe toujours, ça n'a pas changé,
oui,
a priori.
Ouais.
Grâceuse, en général, j'évite d'y mettre mes mains.
C'est comme dans le métro, c'est ça en fait.
Bah, on est nombreux à passer derrière la barre. Donc,
ah, déjà, c'est premier élément, vous n'êtes pas tous en même temps. Vous passez les uns après les autres.
Ah, non, on est.
Ça dépend des scènes.
Ça dépend des scènes, mais on est. Alors, de plus en plus, on est en trac, ce qu'on appelle en trac, c'est-à-dire tout seul. Mais bon, c'est pas très rigolo. C'est bien de pouvoir jouer avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, on est deux ou trois. Au-delà de trois, ça, c'est compliqué. Hein, quand on commence à être quatre derrière une barre, en général, on fait ce qu'on appelle des pistes. On passe deux par deux, avec, voilà, même si on est nombreux, parce que sinon...
C'est un petit peu technique, mais Géraldine a raison. En général, pour que ça soit moins difficile pour les techniciens, les techniciens préfèrent faire des tracks. Comme ça, au mixage, ils raccordent tout.
Donc on isole les voix, et puis après on raccorde le tout, et puis c'est fini.
Les pistes, quoi. Tu te mets là devant le micro, t'enregistres ta piste est là, et puis il y a quelqu'un d'autre, et puis on pose les pistes côte à côte, et on peut effectivement mixer tranquillement. Tandis que souvent, si on est ensemble pour parler sur quelque chose, on se chevauche l'un l'autre, enfin ça va pas du tout. Voilà.
Alors justement, on parlait donc d'énergie, quand vous êtes derrière cette fameuse barre, est-ce que vous, on parlait de rythmique aussi, est-ce que vous reprenez, non pas les intonations, mais la manière dont joue la personne, je ne sais pas, elle fume une cigarette, vous prenez une cigarette, elle s'énerve, vous énervez, est-ce que c'est très physique finalement, il faut être vraiment dans le personnage?
Ah ben, le but du doublage, c'est de coller à la version originale,
à l'émotion,
à toutes les et d'essayer au maximum de reproduire ce qu'a joué le comédien ou la comédienne. Donc évidemment, on est obligé de coller à l'image. D'ailleurs, on nous dit tout le temps regarde les yeux. Il faut regarder les yeux. On doit être dans l'image.
Ah, le truc, c'est de regarder les yeux.
Regarder les yeux. Et puis, on doit être dans son émotion. Si elle pleure, il faut pleurer. Enfin, moi, ça m'arrive souvent de pleurer, de rire. Quand on est en colère, alors évidemment c'est notre colère, mais notre colère doit être proche de la sienne ou du sien. Voilà, ça, parce que nous on aurait joué ce rôle-là, on l'aurait pas joué exactement pareil. Mais là on doit coller. On doit se...
Et justement, jusqu'où peut aller le mimétisme ?
Je ne suis pas sûr que ce soit un mimétisme,
c'est du jeu,
c'est un échange. Je veux dire que lorsque nous sommes au théâtre, par exemple, ou au cinéma, et que nous devons interpréter nos propres rôles, enfin celui qu'on nous donne, moi je ne suis pas commissaire divisionnaire. Hein, or, pourtant, pendant 7 ans, j'ai fait une série...
Shérif,
où je jouais le rôle d'un commissaire divisionnaire. Donc moi, je ne suis pas du tout commissaire divisionnaire. Mais je me suis inspiré de mon père, qui était inspecteur central des douanes. Et sa façon, son attitude, lorsque je le voyais quelquefois à son travail. Donc on s'inspire toujours de quelque chose, même si on doit s'inspirer de la colère, parce que un acteur se met debout, il n'a pas le même souffle que lorsqu'il se met assis. Je vais le faire là, voilà, ben je m'assois, on s'aperçoit qu'effectivement mes poumons sont contractés au moment où je me suis assis, bon, etc. Donc il faut reproduire ce genre de phénomène physique, et ça se reproduit par la voix, de même que lorsqu'un acteur se met à pleurer, parce que c'est terrible ce qui vient de lui arriver, il faut le faire. Je n'ai pas pleuré, mais je l'ai fait, là. Alors c'est peut-être pas très juste, mais lorsque je serai à la barre, après l'avoir vu une ou deux fois, je saurai exactement comment fait l'acteur.
Justement, vous regardez, on vous montre plusieurs fois la scène, vous lisez les textes avant, ou vous découvrez en arrivant ?
Ah, on découvre tout en arrivant.
Ah oui, c'est pochette surprise.
Bon, il y a deux cas de figure. Soit on est en série, et là, les séries, puisqu'on parle de séries, là, c'est justement, il faut avoir, c'est pour ça qu'il faut vraiment des comédiens qui sont aguerris à cette technique du doublage, et qui sont avant tout des comédiens également, parce que tout va vite. Donc on n'a pas le temps, on ne voit pas, on n'a pas visionné les séries avant, on arrive, on nous explique le rôle et on y va. Alors quand on a une série qui dure depuis longtemps, on connaît son personnage, donc comme le Prince de Bel-Air. Mais parfois on commence ou on vient faire ce qu'on appelle un guest, on ne connaît pas le personnage, on ne sait pas, on doit rentrer tout de suite, on doit être spontané, être juste, et on ne voit pas, voilà. Quand on a des rôles importants dans des longs métrages et qu'on double des comédiens et des comédiennes connues, parfois on a la chance d'avoir un visionnage du film avant. C'est pas toujours le cas, mais parfois quand c'est des jolis films, on peut avoir vu le film avant.
Rien à dire.
Il faut se glisser en costume tout de suite.
Oui, c'est exactement ça. Bon, enfin, comme j'ai beaucoup doublé Will Smith, sauf dans les moments où je n'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas travailler avec la maison qui faisait le doublage, ça peut arriver. Moi, on me choisit pour travailler, je choisis ceux avec lesquels je travaille. Je suis un peu comme ça. Donc vous aurez compris que je suis souvent un mauvais coucheur. Et donc, pour les films que j'ai fait de lui, oui, pour la plupart, je les ai vus avant, à l'époque. Parce que maintenant, comme il y a beaucoup de piratage, même lorsqu'on fait un long métrage, je ne parle pas des séries, j'en fais presque plus, je reviendrai sur cet épisode peut-être. Les films sont rayés volontairement.
Oui, il y a des watermarks en plein milieu, c'est écrit, attention de ne pas copier tout ça, tout ça. Oui.
Voilà.
Le visionnage est très compliqué.
Le visionnage est compliqué. Donc, en général, on se rend, je dois doubler Bad Boys là, à la fin de la semaine.
Le troisième,
et je vais aller dans la société pour pouvoir regarder le film.
Alors justement, vous parlez du fait que vous avez refusé de faire certaines adaptations de Will Smith, ou certaines voix de rôle de Will Smith. Votre voix ne vous est pas forcément attribuée. Vous, par exemple, à Libéry, vous la partagez.
Oui,
vous la partagez avec Annie Milon.
Exactement.
Greg, vous avez partagé, si on peut dire, la voix de Will Smith avec Jacques Martial ou avec Lucien Jean-Baptiste. C'est parce que vous avez refusé, parce que le directeur, la directrice d'adaptation a dit non, mais moi, cette voix, ça ne me fait pas. Enfin, ce qui est très déstabilisant pour la personne qui écoute très souvent, pour le spectateur, parce qu'on perd ses marques.
Vous savez, le directeur artistique... Souvent, c'est... Enfin, non, je ne dois pas dire ça.
Dites les choses entre nous, Greg.
J'en ai beaucoup... Il y en a beaucoup que j'ai appelé capitaine au long cours. Parce qu'ils se contentent de dire, non, là, t'es trop long. Ah, non, là, t'es trop court. Bon, pour moi, capitaine au long cours. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque je double, par exemple, le prince de Bel-Air, après avoir fait 90 épisodes, je ne vois pas le... On n'a pas la science infuse et on ne sait pas tout, évidemment. Mais au bout de 90 épisodes, on commence à connaître le personnage. Donc, en général, on a tendance à vous laisser et libre en ce qui concerne l'interprétation, et aussi libre en ce qui concerne ce que vous lisez. Parce que je dis, non, ça ne va pas dans sa bouche.
Ah, vous pouvez adapter, vous pouvez faire des petites variations.
Je dis...
À la marge.
Je dis, moi, j'ai pu faire ça...
Oui, ça arrive. On n'a pas toujours eu cette grande latitude, mais ça arrive qu'on puisse quand même changer un texte qui nous semble...
Vous ne le sentez pas, vous vous dites, il ne dirait pas ça, il ne le dirait pas comme ça.
Oui, ou on n'a pas bien en bouche, ou on se dit, on n'arrive pas à le jouer.
C'est comme ça, je dis non, moi, pour moi, il ne dirait pas ça. C'est plutôt, et puis comme j'ai l'avantage de bien parler anglais... je trouve que cette traduction, ma couille, par exemple, je trouve ça nul comme traduction. Non, franchement, hey my man, oh ma couille, non, bon, franchement, pardon, et je dis non, moi,
vous diriez quoi alors?
Mais je sais pas, j'ai trouvé autre chose, sans que ça soit mon pote ou mec,
Vous essayez quand même donc de coller, parce que vous arrivez finalement quand même à vous, c'est aussi le travail du comédien, de vous projeter dans le personnage et de vous dire non, il va pas le faire comme ça. Et puis donc il y a une intimité finalement aussi avec la manière dont il joue.
Quand on double, on a la chance de doubler un comédien ou une comédienne depuis de nombreuses années, comme c'est le cas pour Greg et pour moi sur Ali Berry, puisque je la double depuis presque 20 ans aussi maintenant. On a parfois aussi des rencontres, on a vraiment des rencontres avec certains comédiens qu'on n'a pas avec d'autres. Parce que d'autres ont fait son travail de comédien, de comédienne. Mais puis là, on a des vraies rencontres. Moi, personnellement, à Libéry, j'adore.
C'est quoi la rencontre avec Libéry?
J'ai l'impression de comprendre tout le temps ce qu'elle fait, que c'est jamais compliqué. Enfin, on fait un travail, mais c'est jamais... Il y a des moments où quand on fait du doublage, on dit « Oh là là, ça a été compliqué aujourd'hui, la séance, je sais pas, je suis pas bien rentrée. » Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est fluide. Donc, on a une vraie rencontre d'énergie, de choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on est triste quand on les double pas. Moi, personnellement, j'ai jamais refusé de la doubler. Il s'avère que je partage le rôle... Parce que c'est les choix de soit des chaînes, soit des majors, soit des directeurs artistiques qui voient Annie plus sur ce rôle-là, moi plus sur tel rôle. Voilà, donc c'est des choix. On est comédien, on est dépendant et du désir des autres ou du non-désir ou simplement ils estiment que pour tel rôle on est plus apte que l'autre ou pas. C'est juste ça. Donc voilà.
Il y a aussi
de profondes conneries. Non, pas ce que vient de dire Géraldine.
Après, c'est vrai qu'on se dit pourquoi si je l'ai doublé sur 10 films, pourquoi je ne peux pas la doubler sur 10 films.
Moi, je vous donne mon point de vue de spectateur. C'est troublant, mais il n'a pas la même voix d'habitude.
C'est quelqu'un qui veut faire le malin et qui, en général, on vire. En lui disant, mais c'était pas bien ça, hein, pourquoi tu l'as prise elle alors que c'est elle qui fait là-haut, pourquoi tu l'as prise lui alors. Alors, je ne vais pas raconter des anecdotes. Mais souvent, les copains me téléphonent pour me dire, Lucien, notamment, Jacques Martial, non, puisque Jacques, il l'a fait en premier.
En premier, oui.
Il l'a fait en premier dans Bad Boys, justement. Mais c'est parce que cette maison-là ne voulait pas travailler avec moi, puisque quelqu'un lui a dit à cette directrice ou directeur, je ne sais pas, mais c'est Greg Germain le double depuis 6 ans, pourquoi tu, etc., etc. Et puis ils ont préféré prendre Jacques Martial, chacun. Et puis après, ben, l'autre maison est revenue à autre chose.
Ah, il y a aussi autre chose qu'on voit depuis quelques années, il y a une starification du doublage. Autrement dit, par exemple, je prends l'exemple de Will Smith, mais il y a certainement le cas pour Ali Berry. Pour Aladdin, c'est Will Smith qui joue dedans, mais c'est Anthony Kavanagh qui le double.
Ah bah oui,
oui, d'ailleurs, il s'en mord les noix.
Pourquoi est-ce qu'on va chercher
Parce que nous sommes incorrigibles en France. Nous sommes vraiment incorrigibles. Je veux dire, aller chercher quelqu'un qui ne fait pas du doublage d'habitude, pour pouvoir lui, dont tout le monde se fout. Je veux dire, on ne va pas voir Aladdin parce que Anthony Kavanagh, toute chose égale par ailleurs, un grand artiste, tout ce qu'on veut,
bien sûr.
Parce que Anthony Kavanagh a doublé
Aladdin, enfin, Will Smith dans Aladdin.
Will Smith dans Aladdin, on va voir Aladdin parce qu'il y a Will
Smith. Mais ça met une étiquette dedans. Sur l'affiche,
c'est
avec la voix d'Anthony Kavanagh.
C'est beaucoup pour les films d'animation. Oui. Là, c'est vraiment là, heureusement que ça ne reste que dans ce cadre-là pour l'instant, pourvu que ça ne dépasse pas ce cadre-là.
Là, c'est un film.
En l'occurrence, c'est un film. Et donc, quand on m'a rappelé, j'ai dit non, mais moi, je veux plus. J'ai pas envie. Ça commence à m'emmerder.
Voilà, très. Je comprends. T'as eu raison parce que là.
Et puis, bon, les choses étant ce qu'elles sont. On se laisse fléchir parce que on prend le double de ce qu'on prenait d'habitude. On fait des choses comme ça. Moi, je fais des choses comme ça, moi.
D'accord. Ouais. Vous ne laissez pas faire.
Non, je ne me laisse pas faire. Ça,
oui, d'autant plus que c'est un métier, je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de revendications, il y a eu même une grève à une époque.
Oui.
C'est un métier qui est plutôt caché, autrement dit, qui est même un peu secret, j'ai l'impression, pour le pénétrer, pour trouver un peu, pour rentrer. Ce n'est pas forcément évident, j'ai la sensation, je me trompe peut-être.
Pour rentrer, vous dites, autrement par rapport au public ou par rapport quand on est comédien et qu'on veut faire du doublage?
Quand on a envie d'en savoir plus.
D'en savoir plus, donc le public.
Oui.
C'est vrai que c'est un métier de l'ombre. C'est un métier de l'ombre, parce que c'est. Mais de plus en plus, je trouve qu'il entre dans la lumière. Comme vous disiez avant, quand les comédiens qui faisaient du doublage n'osaient pas trop le dire, c'était pas non plus considéré, c'était pas hyper considéré, et ça le devient de plus en plus. Le public a envie de savoir comment ça se passe. Il y a beaucoup de blogs, beaucoup d'émissions sur le doublage. Ils sont très intéressés.
Ça tombe bien. Donc ça. Ouais,
non, mais carrément. Mais c'est vrai.
C'est vraiment grâce au public. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus.
Allez-y, Greg. C'est la théorie.
Géraldine. Tout le monde a besoin de ce qu'on appelle un underdog, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dessous de vous. C'est mieux comme ça. Donc, les comédiens, d'une façon générale, disent « bon, ouais, c'est du doublage ». Puis alors, comme il faut gagner sa vie, ils aimeraient bien y entrer. Les comédiens de théâtre disent « ouais, mais c'est des comédiens de télé ». Les comédiens de cinéma disent « non, mais c'est des comédiens de cinéma, de télévision, c'est nul, des comédiens de série ». Vous savez, il y a une anecdote, en 1924, lorsque... Napoléon, Abel Gance fait Napoléon, il y a 2000 figurants. Il faut choisir 300 officiers. Donc on réunit 2000 personnes, on choisit parmi eux 300 officiers. Au bout de 15 jours, les officiers se réunissaient pour manger entre eux le même sandwich que les figurants. Mais c'est quand même extraordinaire, l'humanité.
Ouais.
Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce justement à ce genre d'émission, grâce au public, aux téléspectateurs, c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu. Vous savez, moi, je n'ai pas fait de doublage pendant 24 ans. J'ai arrêté de faire du doublage à la grande grève de 94.
Oui. Il y a eu d'ailleurs pas mal de changements de voix.
Exactement, j'ai dit je ne veux plus faire de doublage. Mais j'ai gardé Will Smith. Et je n'ai pas fait d'autres doublages à part ça.
Ouais.
Depuis 1994, je ne fais pas de doublage. Mais je vais peut-être en refaire.
Ah oui.
Avec qui? Sur quoi?
Je vais peut-être en refaire. On m'a appelé, j'étais pas libre. Mais je vais en refaire.
Alors justement, tiens, vous jouez aussi dans des séries, vous jouez dans des films. Vous avez joué avec Medondo d'ailleurs. On va écouter juste un petit extrait juste pour le plaisir. Medondo nous a quittés justement, mais c'est juste pour le plaisir de vous entendre tous les deux.
Jamais je n'accepterai cet immondice de béton. Cela fait 20 ans que je me bats pour préserver notre île de cette civilisation abusive. 20 ans que je résiste et que je réussis à éviter que Marie-Galante ne se transforme en une gigantesque décharge publique. Ces terrains resteront à l'état naturel.
Voyons, Horace. Tu nous parles écologie, nous on te parle économie. C'est la chlorophylle qui va nourrir nos compatriotes. Sois conscient que plus de 30% de la population est au chômage. Toi-même, tu disais, quel dommage de voir tous ces jeunes déserter les Antilles pour engraisser la métropole.
Mélangeons pas tous les problèmes, s'il te plaît.
Voilà, c'était Anti sur scène, film de Pascal Légitimus en 2000, dans lequel vous avez joué. Je voulais faire le clin d'œil. Voilà. Pensez aussi pour Med Hondo, qui avait cette magnifique voix, notamment entre autres doubleur d'Eddie Murphy. Oui. Justement, est-ce qu'il y a, vous deux, Géraldine, Greg, des comédiens que vous aimeriez vraiment doubler, sur lesquels on n'est pas venu vous chercher est-ce qu'il y en a? Ou que vous aimeriez vraiment vous dites, ah, j'adorerais, je le sens, je sens que je pourrais faire quelque chose avec.
Non, non, sincèrement. Enfin, sincèrement.
J'aurais préféré faire le rôle qu'il fait, oui.
Non, moi, je trouve que. Moi, je suis très heureuse de faire du doublage depuis de nombreuses années et de doubler les comédiennes magnifiques que je double là. Sincèrement, évidemment, quand on voit d'autres comédiennes, on se dit, ah, tiens, ça pourrait fonctionner. Mais moi, Ali Berry, je l'adore vraiment. Je trouve que ça colle. Non, je suis ravie. Mais pour faire du doublage, je tenais à le dire, il faut d'abord être comédien.
Oui.
Ah
oui,
comédien et comédienne.
D'ailleurs, je dis comédien, comédienne de doublage.
Et je vous en remercie parce que c'est vrai que c'est voilà, on a la chance de faire et du doublage et de tourner et de faire du théâtre.
Oui, vous êtes des comédiens, on est bien d'accord. Et c'est important de le rappeler, effectivement.
Oui, c'est peut-être aussi ce qui me donne cette liberté de choisir.
Alors justement, est-ce qu'il y a un doublage que vous avez fait dont vous êtes particulièrement fier? Vous êtes dit celui-là, mais j'étais à fond. Quand je dis voilà, vous en êtes fier, vous l'aimez vraiment, vous dites. J'adore tous les doublages que j'ai pu faire.
Alors, bon. Greg. Oui, vas-y. Je laisse parler. La poursuite du bonheur. Non, ça n'est pas. J'aime faire tous les rôles qui me sont donnés de faire. Mais il y en a qui sont, par exemple, Suicide Squad. Bon, d'accord.
Vous n'êtes pas super à l'aise avec celui-là.
Non, si, je suis à l'aise, formidable. J'étais très heureux, etc. Mais jouer, chercher quelque chose. Comment il s'appelle déjà, expert en séduction.
Ah, Hitch.
Hitch. Je trouve que c'était, il y avait beaucoup de choses à faire passer là-dedans. Oui. À la poursuite du bonheur, grand film.
Plus dramatique d'ailleurs.
Oui, Neuf vies ou je sais pas combien.
Oui.
Ça s'appelle.
Ah oui,
ça aussi, c'était formidable. Aussi, ouais. Et puis un dernier film qu'il a fait.
Il y a Gemini, mais
c'est pas
vous
l'avez
pas doublé, Gemini.
Je l'ai pas doublé. Il y a des raisons à ça, oui.
Ah, il y a des raisons.
Oui. Mais bon, ça fait partie de mes.
Moi, sur les films, évidemment avec Ali Berry, qui est la comédienne que je préfère doubler, il y a The Call, Kidnap, que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de rôles. En fait, je la double. Sur tous les films où elle a vraiment des rôles vraiment majeurs, très intenses, moins des grosses productions, enfin, à part les X-Men où je l'ai doublé, mais sinon sur des films où elle a vraiment des rôles incroyables, donc The Call, Kidnap, et un film qui n'est pas sorti au cinéma, mais qui a été fait, un film cinéma qui est sorti uniquement en DVD, qui s'appelle Frankie and Alice, où alors là, elle fait une performance incroyable, où elle joue trois personnages, elle a un détriplement de personnalité, et alors là, c'était vraiment un grand pied de la doubler sur ce film.
Comment on arrive à jouer cette nuance de personnage alors que c'est le même acteur?
Eh ben, elle le joue. Ouais, elle est comédienne, donc nous on le joue. On est comédien. Donc on doit. Voilà, c'est là où il faut être comédien, justement, pour pouvoir arriver à faire ses rôles aussi. Parce que sinon, n'importe qui peut pas trouver les émotions, trouver. Il faut avoir une capacité à faire ces rôles-là. Hein,
donc justement, Greg, dans Gemini, que vous n'avez pas doublé, Will Smith est plus jeune. C'est lui âgé aujourd'hui versus plus jeune. Si vous aviez dû le faire. Vous auriez travaillé comment votre voix pour faire
ça? J'aurais pris la voix que je prenais.
Comment vous l'auriez fait?
J'aurais pris la voix que je prenais dans Le Prince de Bel-Air.
Ouais. Plus aiguë,
Oui, bien sûr, la voix qu'il avait, la voix à laquelle le public français est habitué. Ouais. On voit bien que les gens qui ont fait Gemini, qui ont décidé que j'étais trop vieux pour doubler Will
Smith. C'est
vrai? Oui.
Mais ça vieillit pas une voix.
Non, mais
ça vieillit moins vite en tout cas que le reste. Mais c'est sûr.
Je vous dis encore une fois, tous ces capitaines au long cours, ces gens qui veulent prendre des décisions, il faut les laisser faire et puis après ils reviennent.
Ces fameux capitaines au long cours dont vous parlez, est-ce que quelque part ils vous cantonnent dans certains rôles? Parce que si on regarde vos filmos, très souvent on voit est-ce que la voix a une couleur? Est-ce que vous êtes amené à jouer certains rôles en particulier ou certaines personnes en particulier?
Est-ce que c'est une spécificité bien française aussi. Sauf pour une actrice qui s'appelle Marie-Christine Dara, qui fait des rôles différents. Mais je ne sais pas la raison pour laquelle
Bon, voilà. Bon, moi, je vous dis encore très satisfait. C'est bien, je double quelqu'un que j'aime bien doubler, sinon je ne l'aurais pas fait.
Mmh. Vous avez fait Danny Glover une fois, j'ai vu aussi. Vous avez piqué la place à Richard Darbois.
Et j'ai appelé Richard Darbois qui ne pouvait pas, il était en Guadeloupe. Richard, il est en Guadeloupe.
Oui, tout à fait.
Il ne pouvait pas, il n'y en avait pas assez. Enfin, ça devait durer 2 jours, il n'allait pas rentrer. Donc j'ai appelé Richard. J'ai dit que je vais être obligé de forcer ma voix pour faire un petit peu comme un chien. Ce que j'ai fait, oui, Danny Glover. Oui, donc, bon, ben c'est comme ça, c'est un mystère.
Après, c'est rigolo parce que plus on travaille avec différentes personnes, plus on a des possibilités de faire des rôles différents. Parce qu'il y a des gens qui vous voient dans certains types de rôles et d'autres, par exemple, au tout début, moi, on me voyait dans les femmes fortes. Et puis après, il y a d'autres directeurs de plateau qui ne me voyaient que dans des rôles très, très doux, très... Voilà. Et c'était rigolo de voir que ces gens-là ne me mettaient pas du tout sur des rôles identiques et n'imaginaient pas une seule seconde que je pouvais faire l'inverse. Donc en fait, si on travaille...
Les étiquettes sont bien françaises apparemment. Ouais,
oui, mais du coup, surtout. Plus on travaille avec de gens, plus on a la possibilité du coup, parce qu'on dit, ah bah tiens, t'as fait ça, ah bah je t'ai vu entendu là-dedans, ah bah, et du coup ça, voilà, ça, c'est un effet boule de neige.
Alors justement, il y a... Greg, vous voulez dire quelque chose ?
Non, pas du tout.
Ah, d'accord. Il y a un domaine qui est en train de se développer. Vous en faites beaucoup. D'ailleurs, vous en avez fait un peu aussi. C'est le jeu vidéo. Oui. Et vous doublez. On va écouter un extrait de Final Fantasy XV.
Oula.
Vous voulez pas discuter d'autre chose quand on boit un coup, les mecs ? D'autant plus qu'on vient juste de renvoyer les nifs chez eux, la queue entre les jambes, non ? C'est pas pour moi. C'est un cadeau pour la princesse. Mais ne le dites pas. Personne n'est censé le savoir. Bon, je dois y aller.
Était prudente là-bas.
Je sais que t'en as marre d'entendre ça, mais je te considère
comme ta petite sœur. Ouais, t'as raison, ça me saoule d'entendre ça.
Est-ce que le fait d'avoir des personnages en face de vous, qui même s'ils sont assez réalistes d'un point de vue visuel, sont virtuels, est-ce que ça permet justement peut-être de décloisonner ou de s'offrir des nouveaux rôles
par rapport aux jeux vidéo ?
Par rapport au film, classiquement, ouais. Et par rapport au film, et donc le fait que le jeu vidéo vous offre des nouvelles opportunités ?
Alors le jeu vidéo... c'est compliqué aussi parfois le jeu vidéo, parce qu'on double, on n'a pas forcément les images... On est vraiment, alors là, c'est encore plus difficile. Ah oui, le jeu vidéo, alors là, c'est encore autre chose. C'est encore moins facile que le doublage.
Il n'y a pas de synchro labial.
Alors, ça arrive, on a des cinématiques. De temps en temps, on arrive, au moment où on fait le doublage, à avoir des petites cinématiques. Mais c'est rare, on est souvent sur des formes d'ondes. On a juste la VO et donc on travaille comme ça sans image. Avec évidemment une idée du personnage. Donc, mais c'est vrai qu'en jeu vidéo, on nous prend quand même pour quelque chose qu'on sait faire. Hein. C'est rare qu'on soit en contre-emploi sur des jeux vidéo. Hein.
J'en ai fait très peu, mais bon, je dis, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle j'en ai fait très peu, mais là, ça irait trop loin. Il faudrait interroger l'homme noir acteur que je suis. Je dis bien l'homme noir acteur. Lorsque j'ai fait Médecin de nuit, vous dites les poils, je recevais des dizaines, des centaines de lettres chaque semaine. J'ai attendu en vain de bons scénarios. Ce qu'on m'envoyait, c'était des scénarios de voleurs de poules. J'ai décidé donc d'arrêter de faire de la télévision. J'ai commencé à faire du doublage. Lorsqu'il y a eu cette grande grève en 92, j'ai décidé que l'on ne considérait pas les acteurs qui faisaient du doublage comme de vrais acteurs. Je trouvais ça dommage et scandaleux. J'ai décidé d'arrêter le métier de faire de doubleur, comme il disait, ce que je trouvais terrible. Bon, et puis voilà, donc c'est à chaque... Et donc pendant toute cette période où les jeux vidéo ont éclaté, je n'étais pas là, je refusais, je disais non merci, je suis pris. Et j'étais vraiment pris, en plus.
Ça pourrait revenir, il y a des jeux vidéo, il y en a tout.
Ah non, mais j'ai décidé, je vous dis, j'ai décidé cette année de recommencer à faire du doublage et des choses comme ça, si on me propose.
Ah, vous savez que le temps passe très très vite.
En notre compagnie.
On est déjà à la fin, il y avait encore tellement de choses à raconter sur vous. Hein, mais justement, qu'est-ce que je ne vous ai pas posé comme question, la chose dont vous auriez voulu parler et sur laquelle je ne vous ai pas interrogé
On n'a pas parlé, c'est pas par rapport au doublage spécialement, mais au fait d'être comédienne antillaise, noire.
Géraldine n'est pas vraiment très noire.
Enfin, pas très noire, métisse, on va dire, mais métisse.
Vous êtes en Martinique,
je suis
née
en Martinique.
Je suis en Guadeloupe, effectivement.
Je connais Géraldine.
C'est rigolo de.
J'ai d'ailleurs failli. L'employé, non, enfin, lui demander de collaborer avec moi dans une pièce que je montais, puisque j'ai un théâtre.
Un théâtre à Avignon.
Je suis toujours dispo. Parce que moi, ce que je tiens à dire, c'est que le théâtre, j'ai commencé par le théâtre, ça a été vraiment, j'en ai fait pendant des années, je continue à en faire, j'ai joué, et j'espère ne jamais arrêter à faire du théâtre, de faire du théâtre. Très important pour moi. L'image, ça a été plus compliqué.
D'accord.
L'image a été plus compliquée pour moi parce que quand j'ai fait mes études de théâtre il y a plus de 20 ans, à l'époque, il y avait très peu de métissage à l'écran. Et donc maintenant, ça s'ouvre. Ouais. Donc j'ai essayé d'y revenir. Par contre, c'est un peu plus compliqué. J'ai un peu de mal à intégrer. J'ai tourné, évidemment. Mais
Damien, arrêtez de regarder votre montre. L'émission a duré 60 minutes. C'est pas grave. Ils en redemanderont
Non, vous ne vous rendez pas compte. J'ai quelqu'un en face de moi qui me dit si ça ne coupe pas, ça ne passera pas.
On va en faire deux. C'est pas grave.
Greg et bien, ils sont à l'aise.
On est content de pouvoir être des comédiens et une comédienne qui faisons à la fois du doublage, du théâtre, des films, voilà.
Ce que dit Géraldine est juste. Pourtant, notre pays, je dis bien notre pays, et je ne parle pas de la Guadeloupe, je parle de la France, évidemment, notre pays a une longue habitude avec le monde noir, traite, esclavage, immigration, code noir, colonie, immigration encore, code de l'indigénat. Donc ça fait près de 5 siècles que la France européenne, occidentale, fréquente d'autres Frances, celles que j'appelle moi des grands larges, la France de Nouvelle-Calédonie.
C'est joli ça, la France des grands larges.
Oui, celle qui n'est pas étroitement serrée dans l'hexagone, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, qui est plus grande que l'Europe, la Guadeloupe, la Guyane en Amérique du Sud, Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord. On s'aperçoit que la France est un vaste pays comme ça. Or, apparemment, ce pays ne veut, pour le moment, en tout cas, et même encore maintenant, même si dans les équipes de foot, ça se libère un peu, c'est vrai, Mbappé, là, et puis il y a d'autres personnes, ce pays tient encore, en ce qui concerne ses écrans, qu'ils soient petits ou grands, parce qu'il y a des petits écrans et des grands écrans, hein, et de grands écrans, ainsi que sur ces scènes de théâtre, à faire que ce soit absolument monocolore. C'est tout de même un peu dommage, parce que je pense que, d'abord, il y a plein de talents qui se perdent. Moi, je pense que les Noirs français ne sont pas moins bien que les Noirs américains, et Dieu seul sait si les Noirs américains ont du talent, donc je pense que les Noirs français en ont aussi, et que notre pays se prive de grands artistes, de grands auteurs, de grands peintres, et pas seulement de grands cyclistes.
Ben merci beaucoup, on va rester là-dessus. C'était une belle conclusion. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Géraldine, pour ces mots, pour votre voix, pour votre présence aujourd'hui. C'était Tu vois qui c'est sur Beta Série La Radio. Un immense merci à vous, donc Greg Germain, Géraldine Asselin, de nous avoir rejoint pour cette première. Et donc une émission, c'est comme un doublage. C'est plein de personnes que l'on ne voit pas et sans qui rien ne serait possible. Et donc j'adresse un immense merci à William, Alain, Lionel, Esteban et Véronique qui ont rendu possible ce moment de plaisir vocal.
Et bonjour. Bravo Damien.
Et merci de nous avoir reçus.
C'était un grand plaisir, on serait resté des heures. Allez, bonjour chez vous.
Tu vois qui c'est ? Présenté par Damien Douani sur Beta Série La Radio.